Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Corentin Mansoir, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde par Jean Guilhermège. Dernier temps de notre série consacrée au pétrole. Lundi, nous observions les marées noires. Mardi, la malédiction de l'or noir. Hier, Trump contre l'OPEP. Aujourd'hui, direction le Golfe de Guinée, Nigeria, Angola, Gabon. À qui profite la rente ? C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde et direction tout de suite le Nigeria.
We are committed. Nous nous engageons à approfondir le travail que nous avons entamé au cours de ce premier mandat de manière à ce que les biens et les ressources de la nation continuent à être organisés et utilisés pour le bien de tous.
En deux mots, je m'engage à privatiser la compagnie nationale pétrolière, je l'ai dit. Je le jure et même s'il me tue, je le ferai. Finalement, la privatisation de cette compagnie nous avantage car nous ne perdrons rien au change.
J'attends depuis 6 heures du matin à cause de la pénurie de pétrole. On ne sait pas quand la situation va se régler, mais que le gouvernement vienne nous aider. Nous, on souffre beaucoup. Ce produit est à nous, alors pourquoi doit-on souffrir pour en avoir ?
À chaque élection au Nigeria, la réforme du système pétrolier est au cœur de toutes les promesses et de toutes les attentions. Durant la campagne, on a entendu le principal opposant, Atiku Abubakar, qu'on entendait dans ce petit son, prôner la privatisation de la compagnie nationale, la NNPC. Aujourd'hui, alors que Mahamudu Buhari entame son second mandat, le nouveau gouvernement vient d'annoncer la réduction de la participation de l'État dans les sociétés pétrolières. Au même moment, un peu plus au sud, la compagnie nationale angolaise Sonangol, sous pression du FMI, entame la privatisation de certaines de ses filiales. Alors, cela signifie-t-il que les deux premiers producteurs africains renoncent à la rente pétrolière, à l'exploitation nationale de leurs précieuses ressources, ou ces changements déguisent-ils l'incapacité des États à financer l'exploitation du pétrole dont les revenus s'évaporent ? Alors que le carburant manque et que les populations ne voient pas les gains du pétrole, quel partage entre majors et dirigeants ? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord ici en plateau à Paris, Philippe Sébille Lopez, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en géopolitique, directeur de Géopolia, qui est un cabinet spécialisé dans l'analyse des risques géopolitiques, et vous êtes un spécialiste des questions énergétiques. Avec nous, en duplex de Bruxelles, Philippe Copinchy, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous, docteur en relations internationales, professeur à Sciences Po, un spécialiste des questions pétrolières en Afrique. Je voudrais qu'on commence, si vous le voulez bien, avec la question des pénuries. On l'entendait dans ce son à l'instant, bien qu'il y ait d'énormes ressources pétrolières du côté du Nigeria, il arrive, et très régulièrement, que le pays soit en situation de pénurie. Comment comprendre ce paradoxe ? On va commencer avec vous, Philippe Sébille Lopez.
Alors effectivement, c'est un paradoxe qui dure. Ça fait 30 ans, pratiquement, que le Nigeria est incapable de subvenir à sa propre consommation en produits pétroliers. Alors que il a 4 raffineries qui lui permettent d'avoir une production, en théorie, de 450 000 barils le jour. C'est un petit peu en dessous de la consommation actuelle du pays. Mais en gros, il pourrait honorer plus de 80% de sa consommation. Problème, ces raffineries ne fonctionnent pas, ou fonctionnent à 10-15% de leur capacité. Ce qui fait qu'évidemment, le pays, la compagnie nationale, en l'occurrence la NNPC, est obligée d'importer des produits raffinés, qu'elle paye en dollars.
Via des sociétés privées.
Via des sociétés privées, et donc qu'elle paye en dollars. Et comme, par contre, les prix à la pompe sont en naira, ça permet, les mauvaises langues le disent en tout cas, de faire des culbutes en termes de taux de change, et donc ça contribue à arrondir les fins de mois d'un certain nombre d'intermédiaires. Par ailleurs, l'autre problème, c'est évidemment les subventions sur le prix du carburant. Puisque aujourd'hui, le litre de super au Nigeria, c'est 145 naira, c'est même pas un $0.5 au taux de change. Donc vous voyez que pour les finances publiques, c'est une catastrophe, et pour les Nigérians, c'est toujours compliqué.
On va s'intéresser évidemment à cette question des subventions qui sont au cœur du dispositif, si je puis dire. Mais Philippe Copinchy, effectivement, ce sont des sociétés, je le disais, privées qui importent le pétrole au Nigeria. Comment se fait-il que ce soit précisément des sociétés privées ? Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Alors, à quand est-ce que remonte cette libéralisation ? Et pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix ? Et quel effet ça a eu ?
Alors effectivement, au départ, le Nigeria a construit des raffineries dans l'espoir d'être d'une certaine manière autosuffisant et d'être capable d'approvisionner son propre marché intérieur en essence, diesel, etc., carburant pour voiture. Il y a deux problèmes, je ne vais pas répéter ce que Philippe Sébille Lopez a déjà très bien dit, mais il y a un premier problème qui est le fait que le manque de maintenance, l'incapacité de la compagnie nationale à faire tourner les raffineries font que techniquement il n'y a pas moyen d'approvisionner le marché. Et donc, comme ça a été dit, du pétrole brut est exporté, il est raffiné à l'étranger, et puis il est réimporté. Et entre les deux, évidemment, il y a tous les intermédiaires qui servent à fluidifier les choses. Et du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des intérêts là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui, y compris au sein de la NPC, au sein de l'élite politique, au sein des militaires, ont monté des petits business qui consistent à essayer de se greffer sur ces transactions pour en prendre une part.
La NNPC, hein, je le dis pour les auditeurs, c'est donc la Compagnie Nationale Pétrolière. On va souvent utiliser la chronique dans cette émission, mais non, mais je le dis une fois ou deux pour que les auditeurs s'habituent. Cette question, effectivement, des raffineries, Philippe Copinchy, comment se fait-il qu'on en est arrivé là? Et est-ce que la situation pourrait changer? Le gouvernement a annoncé assez récemment la levée de plus d'un milliard de dollars pour moderniser précisément ces raffineries. Je crois qu'il y a un partenariat qui a été monté, notamment avec une société italienne, pour essayer de moderniser l'une des usines de Port Harcourt. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à modifier un petit peu la donne et à permettre de limiter un peu ses importations et assurer en tout cas un peu son indépendance énergétique? Pas totalement, mais ça peut changer les choses, Philippe Copinchy?
Je suis pas très optimiste, on va dire.
D'accord.
Le problème du Nigeria est vraiment un problème structurel. C'est une corruption au Nigeria qui est une corruption institutionnalisée. C'est un problème systémique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste quelques personnages isolés qui seraient corrompus et qu'il faudrait mettre sur le côté pour que le système fonctionne bien. C'est le système dans son ensemble qui fait que tout le monde, depuis le président jusqu'au tout petit fonctionnaire, tout le monde essaye de se greffer sur les processus de décision politique et essaye d'accaparer une toute petite part du gâteau qui est essentiellement constitué de ces 30 pétrolières.
Alors on va essayer de regarder peut-être comment est-ce qu'on fait justement pour s'accaparer cette part du gâteau. Et donc il faut s'intéresser au système de subvention, Philippe Sébille Lopez. D'ailleurs, Boiry, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2015, il a immédiatement essayé en tout cas de réformer le système de subvention au carburant, qui est évidemment un élément essentiel pour garantir une forme de paix sociale dans le pays. Par ailleurs, il était très impliqué dans la lutte contre la corruption, en tout cas officiellement. Peut-être que le bilan n'est pas forcément à la hauteur des enjeux, mais en tout cas, dans les discours, c'est le cas. Est-ce que vous pouvez essayer de nous faire comprendre comment fonctionne ce système de subvention, comment il permet de détourner de l'argent et donc de produire de la corruption, Philippe Sébille Lopez?
Donc, en fait, Bouhari, hein, comme ses prédécesseurs, parce que chaque nouveau président élu tente de réduire déjà le coût des subventions, la part des subventions, donc en augmentant le prix des carburants. Évidemment, c'est tellement impopulaire que, en fait, ils essaient d'augmenter, on va dire, de 20-30% pour redescendre ensuite à 10-15. Mais depuis Yaradoua, donc ça fait déjà 10 ans, il n'y a pas eu d'augmentation parce que c'est tellement impopulaire que c'est impossible. Donc, dans le cadre du budget de l'État, qui est largement, évidemment, établi sur la base du cours du baril. En fait, quand l'État nigérian vote son budget, vous avez trois paramètres essentiels. L'estimation du prix du baril pour l'année qui vient, le taux de change naira dollar, puisque les importations et les exportations se font sur la base du dollar américain. Et le troisième facteur... Enfin, celui-là est plus marginal. Enfin, les deux centraux, ce sont ceux-là. Donc, dans le budget, vous avez, entre autres, une part subvention. Bon, alors, selon les années, c'est plusieurs milliards de dollars qui sont pris en charge, au fond, par l'État. Après, les choses se compliquent dans la mesure où la NNPC, qui, elle, va à la fois...
La compagnie pétrolière.
La fameuse compagnie pétrolière nationale, va, elle, à la fois... exporter du pétrole brut et importer des carburants, enfin des produits raffinés. Elle est au cœur du débat. Ensuite, vous avez les distributeurs qui, eux, vont acheter une partie. Alors là, vous avez du privé, là. Hein, eux vont acheter une partie des importations de la NNPC pour alimenter les réseaux hein, au niveau régional ou sous-régional. Et eux ont tendance, ça s'explique en partie donc les pénuries, eux ont tendance à spéculer. C'est-à-dire que quand le Naira dégringole par rapport au dollar, ils ont tendance à stocker et donc à ne pas distribuer, alors que c'est leur rôle, évidemment. Mmh. Donc, en fait, ils ont rentré, ils font de la marge. Donc, en fait, tout le monde fait de la marge. La NNPC, par rapport au cours du dollar et du Naira, mais aussi les suivants, donc les distributeurs qui, eux, vont approvisionner les stations-service.
Mmh. Philippe Copinchy, quelque chose à ajouter peut-être sur ce système de subvention qui permet de générer du cash et de la corruption. C'est des montants très importants. Alors, évidemment, l'État ne est pas forcément très transparent, mais on évalue à 4 milliards de dollars par an le coût de ces fameuses subventions au carburant.
Oui, et c'est effectivement des montants qui sont quand même très très importants, c'est des milliards de dollars par an. Le problème des pénuries et le problème de la subvention de carburant est effectivement importante, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper, c'est surtout la partie visible du problème. À nouveau, on est vraiment dans un problème de corruption systémique et la compagnie nationale NNPC est vraiment une compagnie qui fonctionne dans la plus totale opacité. Elle publie très rarement des comptes, elle ne fait pas d'audit, donc on ne sait à peu près pas combien d'argent rentre dans la société et encore moins comment c'est dépensé. Et en fait, lorsqu'il y a des études, des audits, des enquêtes qui peuvent être faites, on découvre que il y a, alors là c'est pas quelques milliards, c'est des dizaines, parfois, enfin à l'échelle de plusieurs décennies, des centaines de milliards de dollars qui simplement s'évaporent. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, et cette opacité, elle est à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à combien la NNPC vend son pétrole, donc on ne sait pas très bien combien d'argent rentre, on ne sait pas où va l'argent, on ne sait pas qui en bénéficie. Tout ce qu'on peut constater, c'est que à la fin, au moment où il faut payer des factures, au moment où il faut entretenir les raffineries, au moment où il faut développer des activités, au moment où il faut simplement, pour la compagnie nationale, payer les investissements en collaboration
avec les grandes...
Il reste plus rien.
Alors comment est-ce qu'on peut changer la situation, Philippe Copinchy? Le président Mohamedou Bouhari, qui a été donc reconduit pour 4 ans, a annoncé vouloir finaliser une réforme qui vise à réduire la participation de l'État dans les sociétés pétrolières. Que vous inspire cette réforme? Que peut-on en attendre? Est-ce qu'elle aura effectivement lieu? Et surtout, est-ce que ça peut permettre d'amener un petit peu de transparence dans tout ça, Philippe Copinchy?
Sur papier, oui, c'est-à-dire que de manière évidente, le système actuel ne fonctionne pas. C'est des circuits de corruption qui sont très ancrés et ça va être en tant que tel très difficile à résoudre. Est-ce qu'une simple privatisation du système peut changer la donne? J'en doute un petit peu, c'est-à-dire que c'est les pratiques qui doivent être changées, et si vous changez simplement les bénéficiaires sans fondamentalement changer la manière dont le système fonctionne, on va simplement inventer des nouveaux circuits de détournement de l'argent et changer l'identité des bénéficiaires, mais sans fondamentalement améliorer le système. Alors, dans un pays comme le Nigeria, qui est, comme je disais, où la corruption est systémique, c'est très très difficile d'utiliser les instruments traditionnels de régulation, qui seraient, par exemple, je crée une commission anticorruption qui enquête et qui éventuellement poursuit les plus délinquants. Quand c'est arrivé déjà il y a quelques années, tout le monde a été pris de panique, c'est-à-dire que au Nigeria, c'était à nouveau pas quelques brebis galeuses qu'il fallait isoler, c'était tout le système qui était mis en danger, et assez rapidement toute l'histoire a capoté. Moi, ma vision des choses, c'est que dans un pays comme le Nigeria, mais l'Angola par exemple, dont on va parler tout à l'heure, relève un petit peu du même cas, il faut un cadre institutionnel, juridique, plus ou moins contraignant, mais qui arrive par au-dessus, qui soit quelque chose d'international, qui ferait que ça ne soit pas juste laissé aux décideurs nigériens, puisque ça consiste à demander aux corrompus de combattre la corruption. On voit bien que ça peut pas marcher. Et là, il y a des initiatives qui sont lancées, notamment l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, et qui va peut-être bénéficier du soutien, je pense qu'il bénéficie d'une certaine manière du soutien des grandes compagnies internationales, parce que elles sont toutes là au Nigeria, Shell, Shell, Total, Exxon, etc. Et elles voient bien les ravages de la corruption et les conséquences que ça a sur leurs propres activités. Et donc elles se disent, si on peut instaurer un peu plus de transparence, ça faciliterait notre activité. Si le Nigeria se développe un petit peu, c'est bon aussi pour notre business. Et donc, elles sont de moins en moins réticentes à essayer de faire quelque chose.
Philippe Sébille Lopez, est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Copinchy sur l'idée qu'en fait, ces tentatives de réforme de l'actuel président ne servent à rien, que l'idée de réduire les participations de l'État dans ces sociétés pétrolières ne changeront pas la donne, ni d'ailleurs la réduction de la participation, ni même la privatisation totale, parce que c'était la proposition de son opposant, ça ne peut pas marcher. Ça ne résoudra pas le problème.
Non, la privatisation ne va pas fondamentalement changer les choses. D'ailleurs, Atiku Abubakar, donc le rival de Buhari, a parlé de privatisation sans donner de détails. Or, il se trouve que dans la nouvelle loi pétrolière, cette privatisation est envisagée. Donc, ça commencerait par 10% dans les 5 premières années d'exercice de la nouvelle structure. Donc, la NPC qui va remplacer la NNPC. Au Nigeria, c'est souvent cosmétique, les réformes. On change les noms, on change les personnes, on restructure l'ensemble, on élimine des filiales dans la compagnie nationale, ou on en rajoute. Et au fond, les habitudes perdurent. C'est-à-dire que c'est cosmétique. On change la vitrine, mais derrière, c'est toujours le même business. Donc, privatisation ou pas, bon, en plus, qui irait mettre ses capitaux dans une société si la gestion change pas, je vois pas qui. Même les compagnies pétrolières étrangères qui pourraient être intéressées éventuellement, qui sait, vont demander des garanties. Et là, sur les garanties, je vois pas quelles garanties le gouvernement nigérien pourra donner.
Philippe Sébille Lopez, dans l'exploitation pétrolière, il y a deux modèles. Il faut expliquer un tout petit peu aux auditeurs. Il y a celui des contrats par concession, c'est-à-dire une situation où l'État donne des droits d'exploitation à des compagnies contre une redevance, contre un système de royalties. Et puis il y a les contrats par partage de production, par lequel l'État va contracter tout simplement les services d'une société pétrolière pour exploiter à son compte les ressources. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans quel cas on se trouve du côté du Nigeria et lequel serait peut-être le plus adapté pour justement sortir de cette situation, Philippe Sébille Lopez?
Alors, il faut remonter un petit peu sur l'historique de la production au Nigeria. Ouais. Donc les joint ventures entre la compagnie nationale NNPC et les compagnies privées se font sur la base, je schématise, 60-40%. Ça c'est pour 5 des 6 joint ventures. Ces joint ventures, elles étaient à la base, à l'image de l'histoire de la production pétrolière au Nigeria, onshore, donc à terre. Progressivement, les compagnies ont commencé à prospecter dans la mangrove, donc dans ce qu'on appelle les shallow waters, donc les bandes un peu côtières, y compris dans la mangrove. Donc, et avec le progrès aidant et le développement de la prospection et des activités pétrolières offshore, donc en mer, progressivement, les joint ventures, qui représentaient encore 80% de la production pétrolière nigériane au début des années 2000, ont vu leur part se contracter par rapport à la production en contrat de partage de production qui, elle, se fait dans l'offshore et notamment l'offshore profond. Et c'est ce mécanisme, si vous voulez, de substitution entre une production pétrolière basée à terre sur la base des joint ventures et qui, donc, décline par rapport à une production offshore basée sur les contrats de partage de production qui, elle, augmente fortement, qui explique aujourd'hui les discussions et les problématiques concernant la nouvelle loi pétrolière.
Pourquoi est-ce qu'on fait de plus en plus d'offshore, Philippe Sébille Lopez? Est-ce que c'est pour des questions purement géologiques, énergétiques, tout simplement on a des puits qui sont plus rentables? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses éventuellement?
Alors il y a plusieurs facteurs. Il y a les données géologiques de base, effectivement.
Très bien, ça on peut s'en douter.
Voilà, depuis 20 ans, 30
ans. C'est les autres
qui
m'intéressent.
Alors les autres, c'est la sécurité, évidemment.
Ouais.
Les infrastructures offshore sont plus facilement, entre guillemets, sécurisables, même si on a vu que certaines plateformes, notamment Bonga, avaient été attaquées par les militants du MEN, donc le mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger, dans la période 2006-2009. Hein, donc, elles sont pas totalement à l'abri, mais elles sont quand même plus faciles à sécuriser que des installations à terre, où là, à la fois, pour ce qui concerne le on peut pas dire du hooliganisme, mais bon, vous avez des personnes qui vont siphonner les oléoducs de pétrole brut ou de produits, ou vous avez carrément des détournements de production à la base sur certains puits. Bref, toute l'activité offshore est nettement plus exposée à toute forme de dérive ou d'agression, entre guillemets, alors que dans l'offshore, c'est plus sécurisé.
Ouais. Philippe Copinchy, sur ces modèles de production, ouais, d'exploitation.
Les deux types de contrats ne sont en soi ni plus ni moins avantageux, soit pour la compagnie, soit pour l'État, parce qu'en fait tout se négocie. On peut négocier le taux, le niveau des royalties, on peut négocier le niveau des taxes. Donc c'est pas que l'un avantage plus l'autre. Plus l'autre. Les contrats de concession avaient historiquement la préférence des compagnies pétrolières, parce que dans un contrat de concession, les réserves du sous-sol, ce qu'on a découvert comme pétrole, devient la propriété de la compagnie qui l'exploite. Elle paye des taxes, des royalties, mais ça lui appartient. Sauf que, comme Philippe Séville-Lopez l'a expliqué, les compagnies pétrolières sont en association, en joint venture avec la compagnie nigériane, et dans les concessions, chaque partenaire est censé financer les investissements à hauteur de sa participation. Donc la NNPC est censée fournir 60% de tous les investissements qui sont nécessaires. Étant donné la situation de chaos et de corruption dans la NNPC, elle se retrouvait très régulièrement incapable de financer les investissements qui étaient demandés. Et donc pour les compagnies internationales, tous les projets étaient mis en attente, en stand-by, le temps que les Nigériens veulent bien avancer l'argent. Et donc c'est aussi ça qui a progressivement poussé les compagnies à plutôt favoriser les contrats de partage de production, où elles ont pas les réserves du sous-sol continuent d'être la propriété de l'État, mais il n'y a pas ce système de dépendance par rapport aux investissements de la compagnie nationale, et donc c'est quand même un système qui est plus souple pour les compagnies internationales, et c'est ça qui fait que ça s'est beaucoup développé.
Philippe Séville-Lopez, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur les efforts qui sont réalisés ou non par l'État nigérian pour essayer de lutter contre ce système de corruption qu'il y a autour de l'exploitation du pétrole. Diezani Alison Maduke, c'est un nom évidemment que vous connaissez, l'ancienne ministre du pétrole sous la présidence de Goodluck Jonathan. C'est une femme qui a amassé une richesse absolument colossale et qui aujourd'hui est au cœur d'une enquête pour des soupçons de corruption et de blanchiment d'argent. La haute cour fédérale de Lagos a même saisi récemment l'une de ses propriétés estimée à plus de 30 millions de dollars, rien que ça. Est-ce qu'il faut y voir une volonté de la justice nigériane de mettre un terme à la corruption, ou en tout cas de s'y attaquer un petit peu, ou est-ce que c'est seulement de l'affichage?
Dans le cas d'Alison, on verra bien, parce que justement, ces affaires de corruption, y compris quand des décisions judiciaires sont rendues, c'est l'exécution qui pose problème. Je vais prendre l'exemple du gouverneur de l'État de Bayelsa, qui est un des quatre grands États producteurs, États fédérés, donc producteurs de pétrole dans la région du Delta. Il a été jugé et condamné. Alors lui, c'était, il vivait à Londres, il avait plusieurs résidences, une collection de voitures de luxe, enfin.
Mais on n'a jamais appliqué les décisions de justice.
Alors très très partiellement, mais il a été gracié par le président. Et il est même revenu en grâce au sein du PDP à l'époque, parti à l'époque du président Yar'Adua. Donc vous voyez, c'est un peu le problème dans ce pays, c'est que même quand la justice fait son travail, on va dire, ce sont les politiques qui passent derrière et qui passent l'éponge d'une certaine façon.
Pour comprendre bien les choses, et je vais poursuivre un petit peu avec vous, Philippe Séville-Lopez, et je vous rends la parole à Philippe Copinchy, mais pour comprendre comment fonctionne ce système de redistribution pétrolière au Nigeria, il faut s'intéresser au modèle fédéraliste nigérian. Vous avez d'ailleurs écrit un article absolument passionnant intitulé « Les hydrocarbures au Nigeria et la redistribution de la rente pétrolière ». Expliquez un petit peu comment ça fonctionne, cette redistribution pétrolière, et comment la Constitution, les institutions en conditionnent les modalités.
Alors, au niveau la structure de la fédération nigériane repose sur trois strates. Au sommet, vous avez l'État fédéral, ensuite vous avez les États fédérés, et en dessous, dans les États fédérés, les gouvernements locaux. Donc ces trois strates bénéficient directement, de par la Constitution, d'un accès direct à la rente. Ce qui a produit, au cours de depuis l'indépendance du Nigeria, à la base, en 1960, au moment de son indépendance, le Nigeria est un État unitaire. Vous avez trois régions, mais c'est un État unitaire. 1967, général Gowon, qui est aux affaires, décide de la fédéralisation de l'État nigérian. À cette époque, les trois régions gardaient 50% de leur production à leur profit. Et c'était 50% qui partait dans les caisses de l'État unitaire de l'époque. Suite à la fédéralisation du Nigeria, les pourcentages alloués aux États producteurs n'ont cessé de baisser. Au point qu'ils sont passés de 50% à 2%. Mmh. C'était valable pour le pétrole, évidemment. Mmh. Donc, ce qui fait que l'État unitaire, qui avait une production essentiellement agricole au moment de son indépendance en 60, est devenu un État fédéral gorgé de pétrole, puisqu'au fond, chaque État fédéré, au nord, à l'ouest, au sud, partout, a un accès direct à la rente. Et c'est tout le problème de la fédération, c'est qu'on est passé du coup de 9 États au moment de la création du fédéralisme
à 36
aujourd'hui. États aujourd'hui.
C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en réalité, pour avoir cet accès à la manne pétrolière, il y a eu un processus de morcellement, de fragmentation des territoires.
Voilà. Donc en fait,
et donc c'est une fragilisation de l'unité nationale, d'une certaine manière.
Absolument. Et puis, comment faire du développement quand vous avez des structures territoriales qui ne cessent de bouger. C'est ce qu'on appelle au fond, c'est un fédéralisme sissipare, qui est un modèle complètement original dans le monde, puisqu'en général, le fédéralisme se fait par unification d'États, on les réunit, là on les disloque. Donc, mais d'accord, il reste toujours dans le cadre de la fédération, ce qui fait que pour un peu calmer le jeu, hein, le président Obasanjo, après le retour de la démocratie, a imaginé un système de 6 aires géopolitiques, précisément pour encadrer les États dans leur structure actuelle.
Oui, pour essayer de conserver un minimum d'unité et de calmer un peu les velléités sécessionnistes pour justement...
Pour être plus complet, donc l'État fédéral, parce qu'il y a une question de ventilation après de la rente pétrolière, donc avant toute redistribution, les États producteurs de pétrole obtiennent 13%. Ça s'appelle le principe de dérivation. Et ensuite, sur ce qui reste, l'État fédéral va avoir, bon, je schématise, enfin, j'arrondis, hein, 50% de la rente, de ce qui reste. Les États fédérés vont se partager 30%. Et les gouvernements locaux, le dernier niveau de administratif de la fédération, les 20% qui restent. Mais les gouvernements locaux, au même titre que les États fédérés, leur nombre n'a pas cessé d'augmenter. Hein, parce que ça, c'était en parallèle avec la création des nouveaux États. Mmh. Donc aujourd'hui, il y a 774 gouvernements locaux, officiels, plus les officieux. Sur le terrain. Donc,
et chacun veut sa part du gâteau.
Et chacun veut sa part.
Philippe Copinchy, là, on est vraiment au cœur, au fond, peut-être du problème et de la machine pétrole, la machine à cash, la machine à corrompre qui existe au Nigeria. En réalité, les choses sont inscrites d'une certaine manière à l'intérieur même de la Constitution.
Oui, et on est dans un cas très classique, en réalité, de malédiction des ressources. Vous en avez parlé il y a deux jours. C'est-à-dire que dans un tel système, toute production agricole, industrielle, tend à disparaître et l'économie du pays est de plus en plus concentrée sur l'exploitation des ressources naturelles, en l'occurrence le pétrole. Et donc, comme vous l'avez très très bien décrit, il y a une tendance à la fragmentation parce que accéder au pouvoir, ou en tout cas au circuit du pouvoir, devient la seule manière d'accéder à la richesse. Et au Nigeria, ça pose un problème supplémentaire que vous avez pointé, qui est les conséquences sur l'identité nationale, ou en tout cas le vouloir vivre ensemble, dans la mesure où une partie de la base du découpage des États en particulier dans la région du delta du Niger, là où est produit le pétrole, se fait sur base identitaire, ethnique. C'est-à-dire que à l'intérieur d'un État, vous avez des petites minorités qui se disent ben, « moi aussi, communauté X ou communauté Y, je voudrais avoir accès à cette richesse, et la seule manière, c'est de me constituer en État, en gouvernement local, pour pouvoir approcher le gâteau et en avoir une partie ». Alors comme en tendance, Philippe Séville Lopez l'a bien expliqué, les régions pétrolières reçoivent en réalité de moins en moins d'argent de ce qu'ils considèrent comme leur pétrole, ça va alimenter les rancœurs, les frustrations des populations locales et assez souvent, de plus en plus fréquemment, déboucher sur de la violence, du gangstérisme et d'autres choses qui finissent par réellement handicaper la possibilité pour les compagnies de travailler, ou en tout cas de travailler à terre, à proximité des villages.
C'est exactement ce qui est décrit, cette situation, dans un film qui était sorti en 2012, intitulé Black November. Extrait.
Quelles sont leurs demandes ?
Vite, regardez, ils sont en direct.
Je m'appelle Tamuno Alaïbé, et je suis le chef du Front Populaire Unifié pour l'émancipation des peuples du delta du Niger, du Nigeria. Nous tenons Tom Hudson, président de la Western Oil. Si Ebiere Perema est exécuté au Nigeria aujourd'hui, les coupables auront le même sort qu'elle.
50% du pétrole nigérian est acheminé aux États-Unis.
Et figurez-vous qu'un
Américain sur 5 consomme
du pétrole nigérian. Nous exportons du pétrole non raffiné à votre pays et nous vous rachetons du pétrole raffiné. Pourquoi ? Parce que la Western Oil et notre gouvernement corrompu empêchent nos raffineries de fonctionner.
Voilà, extrait de Black November, Struggle for the Niger Delta, qui était sorti en 2012, un film qui raconte la lutte d'une communauté du Delta du Niger contre le gouvernement nigérian et une multinationale pétrolière pour sauver leur environnement détruit par des déversements excessifs de forages pétroliers, faisant écho au MEND, le mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger, qui réclame depuis son apparition en 2006 une plus juste répartition de la manne pétrolière et le développement du Delta, qui est une région particulièrement sous-développée. Je vous voyais sourire, Philippe Séville Lopez, en entendant cette fiction qui, en réalité, évidemment, s'inspire beaucoup de la réalité.
Enfin, non, je souriais par rapport à ce qui était dit, parce qu'il est vrai que le Nigeria, enfin, plus de la moitié de la production pétrolière nigériane allait vers les États-Unis, parce qu'il se trouve que c'est un pétrole très léger et que les raffineries américaines sont plutôt équipées pour raffiner justement ce type de brut. Il était cinquième fournisseur des États-Unis pendant toutes les années 2000. Aujourd'hui, avec les pétroles légistes américains qui sont aussi très légers, ils n'ont plus besoin de la production nigériane. Donc c'est ça qui me faisait sourire, parce que par rapport au contexte, évidemment, dans le Delta, là, bon, c'est un aspect, la pollution, c'est un des aspects, mais il y a tellement d'autres choses. Et là, il serait peut-être bon d'évoquer justement les rapports que peuvent avoir les communautés hôtes, c'est-à-dire les villages, pour parler simplement, qui ont des infrastructures, des compagnies pétrolières sur leur sol. Que ce soit un pipeline, une station de pompage, et a fortiori des puits et des gisements.
Et donc, alors, ces relations, justement ?
Bah, elles sont très compliquées, parce que et d'ailleurs, c'est un des volets qui doit être examiné dans le cadre de la nouvelle loi pétrolière, qui, bon, je le rappelle, ça fait 10 ans qu'elle est au niveau parlementaire. Et la dernière mouture qui était... Sénat, Assemblée, avait enfin réussi au bout de 10 ans à se mettre d'accord. Et là, c'est le président Bouhari qui a refusé de la signer parce qu'il a considéré... Bon, il manquait des choses, voilà. Bon, pour faire simple. Bref, les rapports entre les communautés hôtes et les compagnies sont, on va dire, gérés au mieux par les compagnies étrangères. C'est ça le paradoxe. Gérés au mieux. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez à l'intérieur de chaque compagnie un département qui s'appelle développement durable, chez les enfants. Bon. Et l'idée, alors bon, évidemment, c'est géré par des Nigérians. Et l'idée, c'est d'associer un peu les communautés hôtes, précisément, un meilleur développement social avec une redistribution très très partielle des bénéfices des compagnies.
Et ça fonctionne un peu ?
Alors ça fonctionne, mais ça crée des jalousies, parce que vous imaginez que dans une région, une communauté hôte à côté, ce sera une communauté non hôte, et donc la communauté d'à côté n'aura rien, alors que l'autre pourra avoir tout, et tout c'est pas grand chose souvent. Et de plus, ce sont les chefs traditionnels au sein de ces communautés qui décident en gros... quelle forme de soutien ils souhaitent. Alors, Pour certains, ils vont prendre justement de l'électricité, une fourniture d'électricité. Donc là, on va dire que ça profite à tout le monde, ça permet d'avoir de l'eau, des pompes à eau, enfin bref, un début de développement. D'autres vont prendre de l'argent, du cash. Et évidemment, là, c'est tout à fait autre chose.
Philippe Copinchy, avant de passer au Gabon.
Non, pas aussi. Allô?
Oui.
Oui, je serais malheureusement pas aussi optimiste. Effectivement, les relations entre les villageois et les compagnies sont souvent très tendues. On a mentionné, mais on est passé très vite, mais la pollution, c'est un problème qui est vraiment très très important dans cette région, qui était initialement fait de villages de pêcheurs, d'agriculteurs, et tout ça a été ravagé par l'exploitation pétrolière, et donc ça se traduit par une violence de plus en plus importante, des sabotages, des kidnappings, etc. Et la raison, c'est que dans le delta du Niger, comme d'ailleurs ailleurs dans le Nigeria, l'État, les autorités publiques, elles sont absentes. Vous êtes dans la rue à Port-Harcourt, vous ne voyez rien qui ressemble à un service public. Et donc, les gens localement ont pris l'habitude de se tourner vers les compagnies pétrolières pour dire, ben voilà, on veut obtenir quelque chose de notre pétrole. Et ce que font les compagnies pétrolières, c'est effectivement développer des programmes sociaux. Ils construisent des écoles, ils mettent de l'électricité, ils construisent des cliniques, ils construisent des routes. Alors sur le papier, on se dit, ben c'est super, elle participe au développement. La réalité est malheureusement un peu plus compliquée, c'est-à-dire que, oui, elle construit des écoles, mais qui va payer les professeurs ? Elles construisent des cliniques, mais qui va fournir les médicaments, qui va payer les médecins, qui va payer les infirmières? Les compagnies pétrolières n'ont pas vocation à faire ça. C'est pas vraiment leur métier, elles sont pas vraiment très chaudes de faire ça. Et le problème, c'est qu'en développant ces programmes sociaux, on envoie d'une certaine manière un message aux autorités publiques qui est de dire, ben, au fond, on va prendre en charge ce que vous devriez faire. Et dans un système corrompu comme celui du Nigeria, c'est un espèce de feu vert pour s'accaparer encore plus de l'argent. Et donc, on voit que il n'y a pas véritablement d'impact sur le développement à travers ces programmes qui sont une manière d'acheter la paix sociale à court terme, mais qui forment une sorte de cercle vicieux qui fait que le problème ne font depuis 10, 20, 30 ans, ne font qu'empirer. C'est de plus en plus violent, c'est de plus en plus compliqué de travailler là-bas, et on ne résout pas le problème comme ça, à mon sens.
Philippe Sébillé Lopez, vous voulez réagir?
Oui, la responsabilité, on va dire, des autorités, à la fois fédérales et des gouverneurs dans les États pétroliers, est évidente. Si vous voulez, l'État fédéral a essayé de régler la question du sous-développement dans la région pétrolière du Delta en créant une commission. Commission du développement, justement, du Delta du Niger. Cette commission a eu des budgets assez conséquents pendant des années. Malheureusement, l'argent s'évapore. C'est comme la rente. L'argent arrive, il y a quelques programmes qui sont lancés, mais ils vont pas au bout. Et après, l'argent n'est pas perdu pour tout le monde. Et quant aux gouverneurs des États, captent plus, on va dire, que les gouvernements locaux. Or, ce sont précisément les gouvernements locaux qui sont, eux, au contact des populations et qui doivent gérer les infrastructures éducatives, sanitaires, et les États fédérés, eux, gardent l'argent et font très peu pour les populations.
On est avec vous, Philippe Sébillé Lopez, et vous, Philippe Copinchy, dans cette série consacrée au pétrole. Aujourd'hui, Nigeria, Angola, Gabon, à qui profite la rente? On va s'intéresser justement au Gabon. 11h38, vous écoutez France Culture.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Sur la carte mondiale de l'or noir, il faut ajouter aujourd'hui une nouvelle tâche, le Gabon. Au sud de Port-Gentil, l'arsenal ultramoderne de la recherche pétrolière a été mis à contribution. Ces explosions créent des trains d'ondes souterrains qui sont enregistrés par les sismographes. Ainsi se dresse la carte du sous-sol gabonais. Déjà, à Ouzouri et à Pointe-Clairette, les sondes fouillent le sous-sol. En pleine forêt, des dériques s'élèvent. Des puits ont commencé à produire et envoient leur pétrole vers les premiers réservoirs établis au bord de la rivière. De là, les chalands amènent leur cargaison aux appontements de Cap Lopez, dont les installations pourront emmagasiner jusqu'à 70 000 tonnes de pétrole brut. Récemment, arrivaient au Havre les 11 000 premières tonnes de ce pétrole. Ce n'était qu'un début. D'autres pétroliers suivront.
Voilà, juin 1957, l'économie gabonaise aujourd'hui repose en grande partie sur l'exploitation des ressources pétrolières, c'est à peu près la moitié du PIB. En 2012, le Gabon, c'était le 37e producteur mondial, mais ce qu'on voit ces dernières années, c'est que la production est plutôt en baisse depuis une vingtaine d'années et que c'est peut-être le signe qu'il faut faire évoluer le secteur pour qu'il puisse rapporter davantage. Douglas Yates, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de relations internationales à l'American Graduate School de Paris et puis maître de conférence en droit américain à Cergy Pontoise. Des évolutions, justement, il y en a peut-être à venir, puisque le 26 février dernier, c'était il y a quelques jours, le Conseil des ministres du Gabon a présenté un projet de nouveau code pétrolier. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il y a dans ce projet, le contenu, justement, de ce nouveau code, et pourquoi est-ce qu'il a fallu, est-ce qu'on a pensé qu'il fallait mettre en place un nouveau cadre ?
Ok. L'objet principal de ce nouveau code est d'attirer les sociétés pétrolières parce que depuis des années, les sociétés pétrolières ont évacué le Gabon. Ils n'ont plus entré à cause du nationalisme de ressources de Ali Bongo. Donc, l'ancien code de 2014 était en pleine, en une hausse de prix vers $100 par baril maintenant que le prix de pétrole est en baisse, le nouvel code est passé. La chose la plus marquante de ce nouveau code, c'est qu'ils ont réduit l'impôt sur les sociétés de 35% à 0%. 0% impôt. Donc, les sociétés disposeraient 10 ans pour l'exploration sans impôt, 15 ans pour la production sans impôt. Aussi, le bénéfice pétrolier, le profit oil, qui est le part restant de la production après toutes les récupérations des coûts, aussi était réduit à 50% pour conventionnel, 45% pour la offshore, c'est-à-dire le nouvel code baisse les impôts pour attirer les sociétés pétrolières.
Et est-ce que vous pensez, Douglas Yates, que ça va suffire ? J'entends parfaitement les initiatives extrêmement fortes dans le domaine de la fiscalité, mais est-ce que ça va suffire à rendre le pays plus attractif ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres éléments qui peuvent refroidir peut-être d'éventuels investisseurs, Douglas Yates ?
Oui, non, il y a plein de choses. Une des questions, parce que je fais plein de consultations sur ce sujet, une des questions, tous les investisseurs de grosses fonds demandent, parce que c'est pas seulement les sociétés pétrolières, mais aussi les investisseurs qui achètent des obligations d'État. C'est est-ce que Ali Bongo va tenir le coup? Maintenant, sa santé est fragile. On a des doutes que le régime en place va continuer. C'était le partenaire principal de tous les investisseurs du monde entier en Gabon. C'est le régime, la famille, la dynastie Bongo. Donc non, il y a toujours des questions. Par exemple, le nouvel code n'était pas promulgué parce que Ali Bongo était absent depuis des mois.
Il faut rappeler pour nos auditeurs, Douglas Yates, que s'il est absent, c'est parce qu'il a fait un AVC il y a quelques mois, qu'il a été absent très longtemps, qui a eu énormément d'incertitudes sur son état de santé. Il se trouve qu'il vient tout juste de rentrer au pays, c'était cette semaine. Est-ce qu'il va mieux, tout simplement ? Est-ce qu'il va pouvoir reprendre les rênes du pays et valider, justement, ce fameux projet nouveau, ce projet de nouveau code pétrolier ? Ou est-ce qu'on en doute encore ?
Voilà. Un de ses buts principaux, c'est précisément de promulguer ce nouveau code parce qu'il a besoin des investissements. Il s'endette, il a doublé la dette en Gabon depuis la mort de son père, qui était, comme vous savez, l'ancien dirigeant. Donc, depuis 10 ans, il a doublé la dette pour investir dans son programme de développement Gabon émergent. Maintenant, quand il est arrivé, la dette était juste un tiers de le PIB. Maintenant, c'est 2/3. Donc, il a besoin de nouveaux investissements, principalement parce que son programme de développement ne fonctionne pas, ne produit pas de l'argent.
Et notamment, la production pétrolière se porte particulièrement mal. Je le disais tout à l'heure, la production est en baisse, malgré effectivement tous ces investissements.
Ok, oui, mais je veux juste préciser, parce que depuis 25 ans, j'étudie le Gabon et le pétrole en Gabon. Et ce que je vois à la longue terme, c'est le prix est en hausse, le prix baisse, le prix est en hausse, le prix baisse. Donc, la fluctuation des prix, c'est un des principaux symptômes de la maladie de pétrole en carbone. Mais certainement, le prix va augmenter encore et à ce moment-là, je serai invité de parler de miracle de pétrole. Maintenant, c'est en baisse, plus tard, ce sera en hausse. Et lui, la question, c'est est-ce que lui peut contrôler ses dépenses comme son père a fait au fin de régime pour réduire la dette? Ça exige le vrai leadership. Je m'en doute qui Ali Bongo en a.
Réaction, vous restez encore un petit peu avec nous, j'ai peut-être encore une question à vous poser. Réaction avec Philippe Copinchy pour commencer en duplex de Bruxelles. Philippe Copinchy, Philippe Copinchy.
Oui, 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 absolument. La seule chose que je peux ajouter, c'est quand même aussi une donnée, c'est qu'en pratique, on n'a pas découvert grand-chose dans l'offshore du Gabon. C'est-à-dire qu'autant on a découvert d'importants champs au large de l'Angola, du nord de l'Angola, au large du Congo-Brazzaville, au Gabon, pas grand-chose. Et donc, la production du Gabon, elle continue à fonctionner sur des puits qui sont maintenant assez anciens et en train de s'épuiser petit à petit.
Vous disiez tout à l'heure, Philippe Copinchy, qu'il y a aujourd'hui des institutions supranationales qui essayent un peu d'organiser le secteur pétrolier à l'échelle du continent. Je pense par exemple à l'Association des producteurs du pétrole africain qui a été rebaptisée depuis l'Organisation des producteurs africains du pétrole. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre d'institution? Est-ce qu'elles peuvent effectivement aider les États africains à mieux gérer cette manne pétrolière, de sorte qu'elles profitent davantage au développement, aux populations locales? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez?
Pas forcément, parce que le problème il reste entièrement lié à la volonté des dirigeants de faire quelque chose. Et malheureusement, dans tous les pays qu'on a cités aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup où j'ai le sentiment que les gouvernants sont là pour réellement participer au développement du pays. Malheureusement, on a affaire assez souvent à des régimes qui sont quasi kleptomaniaques, dont le but, pour dire les choses un peu vulgairement, c'est de s'en mettre plein dans les poches. Et donc, avoir des cadres institutionnels supplémentaires, si on change pas la volonté des dirigeants, on n'y arrivera pas. Là où ça peut marcher, c'est, à mon avis, s'il y a une forme de contrainte qui peut s'exercer. Alors, une contrainte légale, c'est toujours difficile, parce qu'on a affaire à des pays qui sont souverains, mais par contre, c'est des pays qui sont très très dépendants des acteurs économiques internationaux, et que si on met à ces acteurs économiques internationaux, c'est-à-dire les grandes compagnies pétrolières, des contraintes en termes de transparence, en termes de non-participation à la corruption, etc., elles n'auront pas d'autre choix que de les appliquer là où elles vont, y compris si l'environnement politique local est extrêmement corrompu.
Philippe Sébille Lopez, vous y croyez?
C'est compliqué. Par rapport à l'Association des producteurs africains de pétrole, vous prenez les quatre pays africains qui sont membres de l'OPEP, ils font 80% de la production africaine, plus de 80%. Donc, ce qui ne se passe pas au sein de l'OPEP a peu de chances de se passer dans les autres pays d'Afrique et au sein de cette association. Au fond, ces associations
ça dépend parce qu'ils peuvent aujourd'hui ne pas beaucoup exister au sein de l'OPEP parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont peut-être bien plus importants, et je pense en particulier à l'Arabie Saoudite. S'ils se réunissaient à l'échelle du continent, on peut espérer peut-être un autre fonctionnement.
L'idée centrale par rapport à toutes ces questions pétrolières, c'est la souveraineté des États. Les États sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. Quelle instance supranationale peut venir leur dire vous n'avez pas donné tel pourcentage ou avoir telle gestion? Il y aurait déjà de la transparence, ce serait évidemment un gros plus. Les compagnies pétrolières, elles, d'une certaine façon, aimeraient bien qu'il y ait plus de transparence. Sauf que après, ça pose juste un seul problème par rapport aux compagnies, c'est que, et c'est d'ailleurs pour ça que le président Trump a exonéré d'une certaine façon les compagnies américaines en matière de transparence, c'est-à-dire Publish What You Pay, la fameuse ONG, donc publier ce que vous payez, sous-entendu ce que payent les compagnies aux États producteurs. Beaucoup de compagnies, notamment européennes, pétrolières, étaient d'accord pour publier ce qu'elles versaient au gouvernement. Côté américain, elles suivaient moins volontairement. Et là, Trump a dit, bon, c'est pas la peine. Parce que d'une certaine façon, ça permet aux compagnies entre elles de savoir quel contrat... Non, mais il faut comprendre. Ça permet aux compagnies de savoir quel type de contrat elles ont passé les unes par rapport aux autres à l'intérieur d'un même pays. Et donc, ça permet de voir aussi qu'il y a de la discrimination, qu'il peut y avoir des accords qui sont plus ou moins... équitable et des traitements discriminatoires les uns par rapport aux autres. Donc la transparence a un coût, on va dire aussi.
Oui, et puis c'est difficile effectivement de contraindre ces compagnies pétrolières à la transparence. C'est déjà difficile en Europe, c'est difficile aux États-Unis, c'est peut-être encore plus difficile du côté de la Chine, qui est particulièrement présent du côté du Gabon. Douglas Yates, peut-être en guise de conclusion, on arrive au terme de l'émission, mais je voudrais vous redonner la parole, Douglas Yates.
L'idée des grandes sociétés, par exemple le système ELF au Gabon, a évolué beaucoup dans les dernières décennies pendant la ruée vers le pétrole africain. Maintenant, on a plein de petites sociétés, Malaysian Petronas, Australian Woodside, Espagnol Repsol, Perenco, ici le franco-anglais société. Ils ont acheté les parts des grandes sociétés. Ils vont continuer à épuiser toutes les ressources pétrolières sur le continent. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que l'État font avec les recettes? Le développement, moi, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'on achète d'Arabie Saoudite, sauf que le pétrole? Et là, c'est 500 milliards de dollars chaque année. Ils produisent rien de tout. Donc, le pétrole produit pas le développement.
Merci beaucoup, Douglas Yates, d'avoir été avec nous ce matin en direct. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'American Graduate School de Paris et auteur d'un dictionnaire historique du Gabon. Quatrième édition, c'était en 2018, chez Roman et Littlefield. Un grand merci à vous.
Sacré nom de bon Dieu, c'est toujours pareil à 7h du matin ou 6h du soir. Si j'avais pas besoin d'une bagnole, je ne serais pas parmi ces tocards.
Quand il n'y aura plus de pétrole, on se promènera en carriole parmi les fleurs, les feuillages. Les motards sont en chômage.
Ouais, ça sera peut-être pas si mal quand il n'y aura plus de pétrole. Hein. Pétrole, une inépuisable source de tension, on l'a vu toute cette semaine. Cette série s'achève. Un grand merci à nos deux invités, Philippe Sébille Lopez. Merci infiniment de nous avoir éclairés. Je rappelle que vous êtes directeur de Géopolia, un cabinet spécialisé dans l'analyse des risques géopolitiques, docteur en géopolitique. Et puis Philippe Copinchy qui est avec nous en duplex de Bruxelles. Vous êtes docteur en relations internationales et professeur à Sciences Po Paris. Et je remercie d'ailleurs Pierre Benazet qui a assuré justement la liaison jusqu'à nous.
Plus de télé, plus de téléphone. On viendra des autochtones. On repiquera Serralie en priant le bon Dieu qui est la pluie.
Ça y est, je tombe en plein sur un bouchon. Je suis vraiment dans la file des cons. Merde, y a un camion en travers. Oh, les emplâtres, y'a qu'à passer sur le trottoir. Vas-y, pépère.
Et voilà, c'est avec les frères Jacques qu'on se quitte. Plus de pétrole, on mettra peut-être la vidéo, la référence sur la page de Culture Monde. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Nicolas Collin, un spécialiste de l'économie numérique et enseignant à Sciences Po, qui a attiré l'attention dans une tribune publiée par Le Monde sur l'Américain Martin Goury. Depuis, celui-ci est beaucoup sollicité par les médias et les instituts de sondage français, Brice.
Mais il faut dire que cet ancien analyste de la CIA, aujourd'hui à son compte, passe pour avoir prédit, figurez-vous, le mouvement des Gilets jaunes. Il a publié en 2014 à compte d'auteur un essai qui a connu un tel succès aux États-Unis qu'il a été réédité l'an dernier par un grand éditeur. Son titre, pas besoin de le traduire, « The Revolt of the Public and the Crisis of Authority in the New Millennium ». Sur son blog qui s'appelle « The Fifth Wave », Martin Goury développe une thèse très simple. De l'invention de l'écriture à la révolution numérique en passant par la découverte de l'imprimerie, le flux d'informations disponibles n'a cessé d'augmenter. Or, en dernière instance, comme diraient les marxistes, ce sont les technologies de diffusion de l'information qui déterminent la morphologie des institutions. Les nôtres, eh ben, elles ont pris un temps de retard sur la révolution numérique. Les structures de l'autorité en particulier sont aujourd'hui en contradiction avec les modes de diffusion de l'information. C'est en analysant les printemps arabes et les mouvements Occupy que Martin Gurry a bâti son modèle. Des informations émanant d'individus fonctionnant en réseau indépendamment des sources officielles et légitimes se sont mises à circuler, relève-t-il, d'où l'opposition qu'il trace entre ce qu'il appelle le public et l'autorité. Dans une récente interview donnée au site Atlantico, Gurry précise ce qu'il entend par le public. Ce n'est pas le peuple versus les élites, comme le prétendent les populistes. Ce ne sont pas non plus les masses, telles que les entendaient autrefois les socialistes. Pas non plus la multitude, qui eut récemment son heure de gloire, ni la foule, redoutée par les libéraux ou les conservateurs. Non, le public, tel qu'il l'entend. Ce sont, je cite, « des personnes qui ont été mobilisées par intérêt dans le cadre d'une affaire spécifique ». Bref, des groupes dont les membres communiquent entre eux directement, et c'est ça leur principale caractéristique. De même, sous sa plume, l'autorité ne désigne pas uniquement les gouvernants, mais toutes les personnes qui détiennent une autorité, depuis les universitaires patentés par leur diplôme jusqu'aux journalistes des médias légitimes. Toutes les institutions dont la légitimité est assise sur la prétention à détenir des compétences.
Or, Brice, la révolution de l'information, c'est en tout cas ce que dit Gurry, a progressivement sapé la confiance envers ces autorités.
Oui, parce que leurs compétences font l'objet d'une remise en question. Les médias, on s'en souvient, se sont réjouis de l'érosion de la puissance du pouvoir politique, à laquelle d'ailleurs ils ont pas mal collaboré. L'autorité de Barack Obama, dit Gurry, était très loin d'équivaloir celle de John Fitzgerald Kennedy. Mais à présent, c'est l'autorité du New York Times lui-même qui ne vaut pas mieux. Toutes les autorités sont dévaluées. Et ce qui caractérise l'humeur présente du public, d'après lui, c'est le rejet, la colère. Contrairement au peuple ou aux masses, le public, lui, n'aspire pas à devenir une force révolutionnaire. Il est, comme on dit aujourd'hui, dans le rejet. Les mouvements qui en émanent, tels que nos gilets jaunes, n'aspirent pas à prendre le pouvoir. D'ailleurs, ils n'ont ni leader, ni représentant, ni programme. Ils n'ont pas d'idéologie cohérente non plus. Et les concessions par lesquelles le pouvoir croit pouvoir les calmer, calmer leur colère, ne font que l'exacerber. La violence verbale qui se déploie sur les réseaux sociaux finit par déboucher sur des actes de pur vandalisme. La rhétorique de la rage qui attire les likes et les followers, se transmue en nihilisme dans le monde réel. Alors certains politiciens ont su exploiter ces frustrations, canaliser à leur profit ces colères. Donald Trump en a fait le carburant de sa campagne. En votant pour ce personnage improbable, les électeurs américains étaient invités à envoyer un camouflet aux autorités sociales légitimes incarnées par Hillary Clinton. Le principal défi auquel sont confrontés ces dirigeants d'un nouveau type, c'est de conserver jusqu'au faîte du pouvoir une posture de rébellion, afin de tenter de conserver le rôle de porte-parole du public face à l'autorité. Et de ce point de vue, l'incompétence même de Trump, le caractère irrationnel de certaines de ses réactions, loin de le desservir, deviennent des atouts, des preuves qu'il n'a pas changé de camp, qu'il est resté du côté du public. Emmanuel Macron aussi, selon Gurry, est parvenu au pouvoir en critiquant les échecs des autorités établies, en court-circuitant les partis politiques qui se succédaient au pouvoir et en bousculant un système médiatique qui, du reste, n'a toujours pas digéré sa victoire électorale et ça s'entend. Mais il a prétendu fusionner l'énergie puisée du côté du public avec l'autorité de la fonction. À l'âge où l'Internet sert de grande centrifugeuse, il a tenté d'incarner un centre. Eh bien, c'est une tentative sans précédent, selon Gurry, et un pari bien audacieux.
Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain, bien sûr, Brice, et dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.